On est dans une phase de rapprochement importante. Je peux dire que ça avait déjà commencé avec lors de la visite de Jean-Paul II en 1998. Le voyage de Benoît XVI est une deuxième étape. Mais depuis l'accession au pouvoir de Raoul Castro, les choses se sont encore accélérées. On est dans une période d'échange, de contact régulier important avec l'Église catholique. C'est une étape nouvelle. L'Église a joué un rôle très important, en servant d'intermédiaire pour la libération de nombreux prisonniers d'opinion. Et elle a, on peut dire, servi à Raoul Castro en lui permettant de ne pas être en contact, lui, directement avec ses prisonniers, ni avec certains groupes dissidents, et en opérant ce rôle d'intermédiaire qui facilite les choses parce que pour le gouvernement cubain, il est exclu de reconnaître ces dissidents dont il dit qu'ils sont financés par les États-Unis, et pour certains d'entre eux, c'est tout à fait vrai, qu'ils représentent des intérêts étrangers. Bref, tout au long de l'année 2011, ces négociations avec les dissidents, avec les emprisonnés, les libérations intervenues, etc., ont été rendues possibles parce que l'Église a servi de, c'est le cas de le dire, missi dominici entre le pouvoir et eux. Je crois qu'il y a d'ailleurs, entre le cardinal Ortega, Raoul Castro et d'autres représentants de l'Église, des contacts maintenant réguliers, très fréquents, et qui de l'ensemble me semble très bien fonctionner. Outre cela, l'Église se prononce sur toute une série de questions qui ont trait à l'évolution du pays.
L'un des leitmotifs de l'Église, c'est bien la réconciliation des Cubains. Alors, on ne peut s'empêcher de regarder vers les États-Unis.
On comprend bien que par ce biais-là, l'Église catholique à Cuba peut aussi jouer un rôle dans les contacts avec le gouvernement américain, par le biais des rapports entre l'Église cubaine à Cuba et l'Église à Miami. Donc ça, c'est un deuxième volet, le rôle de l'Église dans l'évolution des rapports avec le gouvernement américain. Donc là aussi, potentiellement, sur les questions de l'embargo, de la levée de l'embargo, etc. Il y a, de fait, de la part de l'Église catholique, une volonté de réconciliation nationale. C'est donc un pont entre la communauté exilée et le gouvernement cubain. L'Église prend aussi de fait des positions indirectement, mais notamment par le biais de ses revues, et surtout de cette revue Espace laïque, sur les réformes économiques. Et elle s'est déjà d'ailleurs prononcée favorablement à l'égard de ces réformes. Elle prend des positions qui montrent qu'elle est concernée par les réformes en cours, par le changement du système économique, et elle s'implique en pratique dans la transition, même si elle ne veut pas jouer un rôle directement politique. C'est une Église qui a un rôle politique de fait, de facto, qui ne veut pas apparaître comme telle publiquement, mais qui est très impliquée.
Est-ce que l'on peut aussi élargir le champ d'intérêt au-delà de Cuba et des États-Unis ?
C'est une Église un regard sur l'Amérique latine, et à mon avis, le voyage de Benoît XVI s'inscrit aussi dans cette perspective. Vous avez une pénétration très importante des sectes protestantes, évangéliques, etc., dans le reste de l'Amérique latine. Et si l'Église catholique peut jouer un rôle dans la transition cubaine, ou en tout cas dans l'évolution du système, et apparaître comme une Église qui joue un rôle différent, tout en les revendiquant la souveraineté nationale cubaine. L'Église cubaine s'est prononcée contre l'embargo et pour sa levée. Donc elle prend un positionnement qui est un positionnement intéressant pour le gouvernement cubain, distancié par rapport à la politique des États-Unis, et tout cela peut être profitable pour elle en Amérique latine. Et enfin, à Cuba même, tout cela lui permet quand même d'améliorer sa situation, ses rapports avec le gouvernement. Ça lui permet désormais d'avoir des recrutements plus faciles à Cuba ou en Amérique latine en termes de prêtres, etc., de construire des séminaires de formation à Cuba même. C'est une situation dont elle tire des bénéfices évidents aussi dans le pays.
On pourrait donc dire, en guise de conclusion, que dans ce cas-là, entre le régime cubain et l'Église cubaine, c'est donnant-donnant ?
Oui, tout à fait. C'est donnant-donnant, et pour l'instant, les deux parties en tirent profit. Le gouvernement cubain, du point de vue cubain, du point de vue de ses rapports avec les États-Unis, y compris de ses rapports sur le plan international avec le Vatican. Rappelons qu'il y a toujours eu un ambassadeur cubain auprès du Saint-Siège. Et il y a toujours eu un nonce apostolique présent à Cuba. Donc sur ce plan, par exemple, nous sommes très loin des relations qu'il y avait entre le Vatican, l'Union soviétique, les pays de l'Est, etc. Tout ça, voire la Chine, tout ça est très, très, très différent. Et d'autre part, pour l'Église catholique cubaine, c'est aussi une situation dont elle tire profit et qui lui permet d'avoir une image de marque positive, de redorer son blason, si je peux utiliser cette expression, à l'égard de nombreux pays latino-américains et de faire face à sa perte quand même relative d'influence dans un continent où elle était très hégémonique auparavant et qui est un continent très important. Donc que ce soit par le biais du Vatican, par le biais de son influence en Amérique latine et à Cuba même, tout ça est très profitable. Pour le gouvernement cubain, ça l'est incontestablement aussi, que ce soit là aussi à Cuba ou dans ses rapports avec les États-Unis. Donc pour l'instant, nous sommes dans une période, une ère d'excellents rapports mutuels et bénéfiques pour les deux.